Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Je te prie d'ouvrir nos yeux, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse voir le monde spirituel, Seigneur Dieu, qu'on puisse comprendre les réalités divines, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir trouvé grâce à tes yeux? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a donné la grâce de lui appartenir? Qu'est-ce que ça veut dire que quand Dieu veut que je le serve, c'est par grâce qu'il m'appelle à son service? Qu'est-ce que ça veut dire aussi l'ennemi? Qu'est-ce que l'ennemi tente de faire, Seigneur Dieu, dans ma pensée, Seigneur Dieu, pour que je cesse de te servir, pour que je cesse de vivre comme si j'étais à toi. Au nom de Jésus. Amen. OK. Donc, on est dans Galates. C'est mon troisième message là-dessus. On va couvrir les versets 10. On va pas mal étudier jusqu'au verset 15, mais les versets 16 à 24 parlent d'eux-mêmes pour ce qu'on va enseigner aujourd'hui. Donc, dans ces passages-là, Paul, il parle de lui-même. Il parle de son expérience. Et il dit aux Galates, si vous n'étiez pas là au premier message, il les a rencontrés dans Actes 13 et 14, ces deux chapitres que vous voulez lire dans le livre des Actes pour comprendre le premier contact que Paul a eu avec eux autres. Ça fait à peu près un an qu'ils sont sauvés, qu'ils ont accepté le don de la vie éternelle, puis déjà, là, ils ont pris une débarque. Puis Paul, il leur écrit, ça fait à peu près un an, puis il leur raconte son expérience. C'est puissant, un témoignage. OK? Parce que l'Évangile, c'est plus qu'une vérité à croire. Tu sais, une fois, il y a des témoins de Jéhovah qui ont frappé à ma porte. Je dis, qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Puis la personne, la seule chose qu'elle pouvait me dire, c'est avant, je ne comprenais pas, maintenant je comprends. Mais l'Évangile, c'est plus que ça. C'est plus qu'un message à croire. C'est une expérience à vivre. C'est d'accepter la grâce de Dieu. C'est de la vivre. Et Paul, il raconte son témoignage parce que il veut s'identifier à eux autres parce que l'année passée, eux autres aussi ont vécu l'expérience qu'il a vécue de recevoir la grâce de Dieu. Et s'il peut juste aller identifier à « j'ai vécu la grâce, vous avez vécu la grâce », ils vont s'en ennuyer quand ils vont réaliser qu'ils s'en sont écartés. Et c'est ça que Paul veut faire. Il va utiliser son histoire pour ça. Pour que ça fasse écho dans le cœur de ses lecteurs qui ont vécu la même chose que lui, et que ça ferait naître en eux le désir de retrouver ce qui a été perdu. Et donc, il leur raconte qu'il a expérimenté la grâce de Dieu, ça l'a changé et ça l'a fait marcher dans une nouvelle justice. Et donc, on va lire le verset 10. On avait fini avec le verset 10 la dernière fois, puis on va commencer où ce qu'on a fini, puis on va voir pourquoi c'est important ce verset 10-là. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Je pense que je l'ai à l'écran. On va aller à la prochaine étape. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul était accusé par des gens qu'on appelait les judaïseurs. On disait que Paul était un caméléon. Puis il changeait de message. Tout dépendant avec qui il se retrouvait, il changeait de message. Hein? Quand il était plus à Jérusalem, il parlait plus comme il fallait suivre la loi de Moïse. Puis quand il était dans une église qui n'y avait pas beaucoup de juifs, comme en Galatie, on n'était pas obligé de suivre la loi de Moïse. Et d'une certaine manière, on l'accusait d'une hypocrisie, de ne pas être vrai totalement pour avoir peut-être un petit peu plus de fans à sa suite. Okay? Et donc, Paul, il dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et donc, lui-même, Paul, quand il se décrit, dans 1 Corinthiens 9, 20, il décrit son ministère. Écoutez bien, il dit, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même pas sous la loi, mais sous la loi de Christ, qui va dire. » Il dit, excuse-moi, comme, comme, OK, attends, je vais lire vraiment. Pas, je vais pas essayer de le réciter. Comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, c'est ça, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns, et je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Donc, Paul, il dit aux Corinthiens, quand quelqu'un est sous la loi, je fais comme si j'étais sous la loi. Quand quelqu'un est sans la loi, donc un non-juif, ben j'agis avec eux comme si j'étais sans la loi. Et ça a l'air comme si il voulait plaire à tout le monde pour avoir un maximum de gens qui finissent par croire. Okay? Mais ce n'est pas exactement ça qu'il fait. Je vais vous donner l'exemple d'une vieille dame qui aurait à son collier une Vierge Marie. Hein? Elle a une Sainte Vierge dans son cou. L'approche de Paul, s'il serait en présence de cette femme-là, ce ne serait pas d'aller tout de suite dire « Hey, tu fais de la mariolâtrie », c'est-à-dire « Tu pars, tu pries à Marie ». OK? L'approche de Paul, ce serait de faire comme si ça ne dérange pas, ce collier-là, OK? Pour arriver à gagner cette dame-là à Jésus-Christ, qui est le plus important. Autrement dit, il ne ferait pas un sujet d'offense avec ce médaillon-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça veut dire qu'il croit à la mariolâtrie? Parce qu'il ne dit rien? Non? Bien, Paul, c'est exactement ça qu'il faisait. Paul, il allait dans les synagogues, il rouvrait la Torah en même temps que tout le monde, il lisait. Puis à un moment donné, quand c'était son tour pour parler, les gens, à la limite, ne se doutaient pas qu'il n'était plus sous la loi. Mais il parlait comme étant sous la loi, mais il ne l'était pas nécessairement. Et donc, se faire tout à tous, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 9, le verset que j'ai lu tantôt, c'était paraître ne pas être en désaccord sur des points mineurs afin d'amener les gens à croire à ce qui était le plus majeur, c'était qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Donc, Paul, aux Galatiens, il est accusé non pas de faire ça, mais de changer de message comme quelqu'un d'hypocrite que tu ne sais jamais trop où ce qui se tient, parce qu'avec un, il dit blanc, avec l'autre, il dit noir, puis tu ne sais jamais où ce qui est vraiment. Et donc, si on appliquerait ça à la vieille dame, ça serait de dire à cette dame-là, « Mais madame, votre Sainte Vierge, c'est très bon de la prier. Il n'y a rien de mal là-dedans. » Donc, qu'est-ce qu'il ferait s'il ferait ça? Il serait en train, littéralement, parce qu'il ne veut pas choquer la dame, lui dire quelque chose qui lui plaît, la flatter. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas perdre cette dame-là pour l'Évangile. Mais est-ce que Dieu serait d'accord avec ça? Qu'on change la vérité en mensonge pour ne pas choquer quelqu'un, pour finalement l'amener à Christ? Non, hein? Ça serait du mensonge. Comment est-ce qu'on pourrait être, Dieu pourrait être serviteur du péché dans ce domaine-là? Et donc, c'est un peu ça qu'on accuse Paul ici. Paul, il dit aux Juifs qu'il faut qu'ils suivent la loi, mais quand il vient avec vous autres, il vous dit que vous ne devez pas suivre la loi. Tu sais. Grosso modo, Paul, c'est un hypocrite d'une certaine manière. Donc, ça ne plairait pas à Christ qu'on dise à la dame, « Hey, madame, c'est vraiment bien que vous priez Marie, puis continuez comme ça, tu sais, puis aussi, il faut accepter Jésus. Tu » sais. Tout l'Évangile perdrait sa force parce que le caractère même de celui qui annonce ce serait rempli de mensonges. Et donc, quand on utilise le mensonge pour tenter de gagner quelqu'un, on cherche et à plaire à la personne et à plaire à Jésus-Christ qui nous a rachetés. Et là, ça ne marcherait pas. Donc, ces accusateurs essayaient de dire que Paul agissait avec hypocrisie et que son but était de plaire aux non-juifs en leur disant qu'ils n'ont pas besoin de suivre la loi de Moïse. Et Paul dit, et c'est important, il dit « Et maintenant ». Et maintenant. Il raconte son témoignage. Il dit « Et maintenant ». Pourquoi? Parce que ce que ces gens-là disent, il y a été un temps où je pensais plaire à Dieu, puis j'essayais de plaire aux hommes en même temps. Puis il dit, c'est vrai qu'il y a été un temps où j'essayais de plaire aux hommes, puis j'essayais de plaire à Dieu, puis j'essayais de faire les deux en même temps. Et que son but était même d'obtenir leur approbation au verset 14. Il dit, j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes ancêtres. Il se comparait à tous les ceux de son âge, puis dit, j'étais bien plus avancé qu'eux autres dans la religion, fait qu'il allait chercher la faveur des dirigeants. Tu sais. Fait qu'il dit, ensuite il dit, et comment j'étais plus avantageux dans le judaïsme, blablabla. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais, et maintenant. Maintenant, Paul, il n'agit pas pour plaire aux hommes. Il est arrivé quelque chose, il y a eu une rencontre, et c'est de ça qu'il va rencontrer aujourd'hui. Il dit, et si je plaisais, et le mot encore est important ici. Des fois, on lit vite, on ne s'en aperçoit pas. Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul, il ne fait plus ça. Paul faisait ça, Paul ne le fait pas, il est passé à autre chose dans sa vie. Et user du mensonge ou de l'hypocrisie pour plaire à tous, il sait que ce serait abominable devant Dieu. Jésus a dit à un moment donné par rapport à l'argent, puis par rapport à ce qui était élevé, parce que les pharisiens avaient beaucoup d'argent, puis tu sais, ils paraissaient bien à l'extérieur, il disait « ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination à l'Éternel ». Et donc, vous cherchez à plaire devant les hommes, ça peut devenir abominable. Pourquoi? Parce que Dieu a des choses qu'il déteste, dont un, c'est un regard hautain et méprisant. Et qu'est-ce qui arrive quand on est élevé parmi les hommes? Qu'est-ce qui arrive? On regarde les autres. Ça arrive ça tout le temps. Dès qu'on est un petit peu meilleur dans un domaine que l'autre, on va dire, oui, non, comment ça qu'il n'a pas compris ça? Comment ça qu'il n'est pas? Et donc, ce qui est élevé des fois parmi les hommes, bien, ça manque d'humilité. Puis ça vient faire quoi? Ça être une abomination devant Dieu. La flatterie, le problème avec la flatterie, c'est qu'on s'éloigne de la vérité. Si j'utilise un mécanisme qui n'est pas vrai pour amener les gens à la vérité, ça ne marche pas. D'ailleurs, Proverbe 27,6 dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Paul écrit Galates, c'est la seule épître qui n'a pas de louange au début. Il dit, vous alliez bien, vous êtes arrêté, vous couriez bien, vous êtes arrêté, vous vous êtes détourné vite de l'Évangile, vous manquez d'intelligence, vous ne comprenez pas l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Il n'arrête pas de lui dire des paroles qui sont comme bouleversantes, choquantes. Les Proverbes disent, dans Proverbe 27, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Une personne flatteuse, c'est une personne qui craint la réprimande. Elle fait aux autres ce qu'elle aimerait se faire faire. Elle ne voudrait pas se faire faire, jamais prendre en tort. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on flatte les gens et personne n'est pris en tort. Et donc, ça fait de moi une personne, quand je flatte, aussi une personne qui n'est pas répréhensible. Paul va dire deux versets avant, « Si je vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que je sois maudit. » Qu'un ange ou un homme ou nous-mêmes annonce qu'il soit maudit. Donc, Paul, ce qui est beau avec Paul, c'est que Paul lui-même se plaçait devant le Seigneur et il se disait, je pourrais être répréhensible. D'ailleurs, Paul n'est pas ce type de personne-là. On a juste besoin de lire quelques lettres, mais on peut juste rester dans Galates puis aller au chapitre 2. Regardez au chapitre 2, verset 11. Céphas, qui est le surnom de Pierre en araméen, il dit, « Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. » En effet, avant l'arrivée de quelques-uns des personnes envoyées par Jacques de Jérusalem, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent de dissimulation. En sorte que Barnabas, qui était un des collègues de Paul, en mission, dans son premier voyage missionnaire, en sorte que Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Bon, c'est un texte un petit peu compliqué. Mais grosso modo, si on met ça bien simple, au début, les juifs pensaient que la vie éternelle, c'était quasiment juste à eux autres. Que Dieu avait gardé la loi de Moïse, mais il leur avait donné la croix pour leur faute. Mais que pour être chrétien, il fallait que tu te fasses juif. Donc, il fallait que si tu n'étais pas juif, il fallait que tu te fasses circoncis. Puis que tu obéisses à la loi juive. Puis ensuite, que tu reçoives la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et ça a corrompu le christianisme dès le début. Autrement dit, il y avait des centaines d'années de tradition où il fallait observer la loi de Moïse pour être en juste relation avec Dieu. Et Dieu arrive, il vient mettre une croix dans l'histoire, puis il dit, à partir de ce moment, la loi est morte, la loi de Moïse, et maintenant, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu, vous allez écouter la parole de Dieu avec foi, et maintenant, vous allez être sous la loi, mais pas la loi de Moïse, la loi de Christ, les enseignements de Christ. Mais ça fait tellement des centaines d'années qu'on est dans cette tradition-là qu'on ne laisse pas aller ça, puis on garde ça comme ça. Puis tant que les Juifs de Jérusalem n'étaient pas venus à Antioche, Pierre mangeait avec les non-Juifs. Comme, puis tu sais, chez les Juifs, il y avait cette idée, tu ne manges pas avec quelqu'un d'impur. Hein? Et donc, un non-Juif, c'était un impur pour les Juifs. Et Pierre, qui était le pasteur, et le premier parmi les douze, et le pasteur de Jérusalem, avait commencé à avoir peur de ces chrétiens-là qui disaient qu'il fallait garder la loi de Moïse aussi et forçaient les non-juifs à judaïser par crainte de ces juifs-là. Hey, c'est la fin du christianisme, ça. C'est la fin de la bonne nouvelle. Si c'est plus par grâce, c'est par les œuvres, c'est plus par grâce. Je veux dire, Paul est en train de prendre une débarque. Puis là, c'est écrit, les autres juifs usaient de dissimulation et l'hypocrisie avait gagné même Barnabas, son collègue. Paul, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Vous n'êtes pas vrai avec l'Évangile. Vous n'êtes pas vrai et c'est répréhensible. Alors, Paul n'est pas ce genre de personne-là qui dit, écoute, oui, je vais plaire aux hommes, mais si ça déplaît à mon maître, je ne plairai pas aux hommes. T'sais. D'ailleurs, Paul, dans son éthique du travail, nous le dit bien dans Éphésiens chapitre 6, il dit, quand vous travaillez pour un patron, il dit, travaillez comme pour le Seigneur. Travaillez pas juste comme pour sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais faites-le comme pour le Seigneur. Donc, pour Paul, ce n'est pas une question de ne pas plaire aux hommes, c'est une question que si plaire aux hommes m'amènerait à désobéir à Dieu, ben je vais plaire à Dieu. C'est ça que Paul il nous dit. Vous avez ça dans Éphésiens 6, 5 et dans Colossiens 3, 22, l'éthique du travail, où quand on travaille pour nos boss, quand on travaille pour nos maîtres, Dieu nous demande de le faire comme pour le Seigneur. Donc, ce n'est pas une question de rébellion face aux autres hommes. Hein? Ça, c'est important. Les apôtres, dans Actes 5, si vous lisez cette semaine, vous allez dans Luc 5, Actes 5, écrit par Luc. À un moment donné, les apôtres, ils font des miracles, ils prêchent la parole, il y a beaucoup de succès, puis le souverain sacrificateur, puis les autres qui étaient avec lui, ont commencé à être jaloux de lui, fait qu'ils l'ont fait emprisonner. Et dans la prison, bien, il y a un ange qui apparaît, rouvre la prison, et puis là, les apôtres sortent à nouveau, puis le lendemain, le souverain sacrificateur puis les autres, ils arrivent, puis ils voient les gardiens comme d'habitude, puis ils rentrent, puis ils ne voient pas les apôtres. Fait qu'ils vont les revoir, puis au verset 29, on leur dit, écoute, on t'avait dit de ne plus prêcher dans ce nom-là, tu sais. Et les apôtres vont répondre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ça ici, c'est ça qui est en train d'arriver ici. Paul, il ne dit pas qu'il ne faut jamais obéir aux hommes, mais si on a un choix entre une loyauté, il faut absolument plaire à notre Dieu. Et la lettre de Galates, c'est une lettre où Paul il dit, écoute, reprends le sage, il va t'aimer davantage. Reprends l'insensé, il va t'haïr davantage. Fait que lui, il souhaite qu'il y ait de la sagesse, puis il y a assez d'amitié pour dire à ses chums, hey, ça fait un an, puis déjà le malin est venu, il s'est passé quelque chose, puis vous vous êtes fait arrêter. Paul, il disait, celui qui me juge, c'est Christ. Dans 1 Corinthiens 4:4, celui qui me juge, c'est Christ. Et c'est pour ça que pour lui, ce qui compte le plus là, dans sa vie, c'est de vivre sous le regard de Dieu qui va évaluer tout homme à la fin de ses jours. On lit le verset 11 ensuite. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Les Juifs, depuis des centaines d'années, ils reçoivent l'instruction de leurs parents qui l'ont transmis à leurs enfants, qui le retransmettent à leurs enfants, qui le retransmettent à leurs enfants, qui le retransmettent à leurs enfants. Et ça, c'est la tradition juive est enracinée dans la transmission de redonner tel que je l'ai reçu. Et les Juifs vont dire, les judaïsants, ceux qui étaient contre Paul, qui étaient montés de Jérusalem jusqu'en Galatie, ils disaient « Paul l'a reçu de Jérusalem ». Paul l'a reçu de Jérusalem. Hein? Il a reçu une instruction de Jérusalem. Mais Paul disait, et s'il l'avait reçu de Pierre? Vous savez, Pierre, là, Il a peut-être fait ça un mois, il a peut-être fait ça trois mois. Il s'est peut-être repenti, comme je disais à ma femme, c'est incroyable, pareil, hein, que l'apôtre Pierre, tu sais, ça aurait pu être la débâcle du christianisme, direct là, tu sais. Puis ma femme a dit, oui, mais Pierre, il se laissait reprendre facilement. Jésus, il a déjà dit, arrière de moi, Satan, parce qu'il avait des pensées inspirées par le diable. Il reprenait tout le temps, Pierre. Puis on sent que Pierre se laisse quand même reprendre. Fait qu'elle m'a dit, oui, mais Pierre se faisait reprendre, puis il l'aurait repris par un autre. Tu sais. C'est vrai. Puis, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que même s'il aurait fait ça un mois de temps, le malin, sa manière d'opérer, c'est de prendre quelqu'un dans une faille, puis de répandre ça partout. Et la calomnie, c'est ça. Hein? Le mot diable veut dire celui qui divise par la calomnie. Puis ceux qui venaient en Galatie, les judaïsants, c'était ceux qui venaient de Jérusalem. Donc, il est arrivé une fenêtre de temps qui n'est pas longue, peut-être trois mois, peut-être un mois, peut-être une semaine. Paul a vu ça, mais il y en a d'autres qui l'ont vu aussi. Et je veux qu'on sache, qu'on réalise que le péché a toujours un prix d'attacher après ça. Que la grâce de Dieu nous permette toujours, toujours de nous relever puis d'être les hommes que Dieu a appelés. Dieu n'a pas dit « t'es plus le pasteur de Jérusalem ». Il l'a corrigé, il a utilisé Paul pour ça, il a continué avec, mais le dommage que ça a créé, les gens pouvaient s'en servir après puis dire « Hey, c'est un disciple de Pierre, ça, c'est un disciple de Pierre, puis Pierre, il croit que, tu sais, il faut judaïser, il faut que les non-juifs, ils... » OK? Et donc, Paul, il met un emphase, puis il va même dire je vous le certifie. Dans les passages, vous allez voir, c'est très fort. Paul, il dit « J'ai reçu mon évangile dans le désert. » En fait, il dit que Paul a reçu, Paul, il dit, son évangile n'a pas trouvé la source dans l'homme, mais sa conversion, si vous lisez dans Actes 9, de 1 à 9, vous rencontrez qu'il est allé chercher des lettres au souverain sacrificateur pour pouvoir monter à Damas, pour pouvoir persécuter les chrétiens. Et pendant qu'il va en route, une grande lumière jaillit et il y a une voix du ciel qui se fait entendre qui dit, Paul, ou ça, pourquoi me persécutes-tu? Hein? Et ce n'est pas Christ qui le persécutait, il persécutait l'Église, mais Christ, il dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Hein? Et là, il va avoir une discussion avec le Seigneur, et le Seigneur va lui apparaître. Et donc, ce n'est pas un apôtre qui est venu puis qui l'a raisonné. Il a rencontré le Seigneur, et il va tomber aveugle, puis à un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Ananias, puis Ananias va venir pour lui annoncer l'Évangile. Donc, sa conversion, c'est qu'il y a eu une apparition. C'est assez non standard. Il a vu le Seigneur ressuscité. Et il dit que son enseignement, il m'est apparu. Et l'Évangile, il dit, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas les frères de Damas qui l'ont enseigné dans ses premiers pas, nécessairement. Et peu de temps après cet événement-là, dans les versets 20 de Acte 9, on voit qu'il prêchait à Damas, prêchait l'Évangile. Et donc, il a insisté. Après ça, dans le passage, il insiste pour dire que ça a pris trois années avant qu'il rencontre les apôtres. Il est allé pour les voir, puis le seul qu'il a trouvé, c'est Pierre, puis Jacques, le frère du Seigneur, qui n'était pas un apôtre, mais le frère du Seigneur. Et c'est comme s'il leur disait, « Hey, les gars, après trois ans que j'ai été sauvé, après que j'ai reçu mon évangile, quand je prêchais, puis j'ai été attaqué à Damas, il s'est réfugié à Jérusalem, il est allé à Jérusalem, puis le seul qu'il a trouvé là-bas, c'était Pierre. » Ce n'est pas à ce moment-là qu'il était répréhensible, c'est 14 ans plus tard. Et c'est 14 années plus tard que Paul va rencontrer les autres apôtres. Fait qu'il n'a pas reçu son apostolat, il n'a pas été envoyé par les apôtres, il n'a pas reçu son évangile de transmission en transmission de Jérusalem. Et donc ça, il tient très fort, parce qu'à quelque part, il y a une histoire qui court à son sujet, qu'il a reçu ça. Puis peut-être même d'un Pierre qui oscillait, tu sais, d'un Pierre qui oscillait entre faut annoncer l'Évangile aux Juifs, il faut qu'ils suivent la loi de Moïse, puis les non-Juifs, tu sais, un message hypocrite un petit peu. Intéressant. Verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Vous avez su. Comment est-ce qu'ils l'ont su? Bien, peut-être qu'ils l'ont su parce que Paul, dans le livre des Actes, quand il annonce l'Évangile au chapitre 12, au chapitre 16, il raconte comment il était avant d'être chrétien, comment il persécutait l'Église et tout ça. Alors, peut-être bien que dans le chapitre 13, puis dans le chapitre 14, quand il est allé en Galatie, puis qu'il a annoncé l'Évangile, bien, il leur raconte comment il était zélé avant dans le judaïsme. Hein? C'est peut-être lui qui leur a raconté. Ou encore, il y a des rumeurs parmi les chrétiens que celui qui détruisait la foi chrétienne, il est maintenant en train de la reconstruire. En Judée, c'était le cas. Dans 1:24, c'est écrit qu'en Judée, les gens proches de Jérusalem, plus au sud-est, ils avaient entendu dire que celui qui détruisait les églises, maintenant, il est reconstruit. Il édifie cette église-là. Fait, peut-être que c'est comme les chrétiens en Judée, ils en ont, vous avez su. Ou encore, peut-être que c'est les judaïseurs qui ont dit, hey, « Savez-vous tout le mal qu'il vous a fait, ce gars-là? » Prendre tout est bon pour quelqu'un qui a un mauvais dessein, pour quelqu'un qui veut diviser. Hein, tout est bon. N'importe quelle information prise hors de son contexte, ça peut, même le fait qu'avant, il détruisait l'Église, si tu ne connais pas toute l'histoire, c'est méchant. Ça, il n'aime pas l'Église, dans le fond. Il la détruisait. Donc, pour un calomniateur, les événements hors de leur contexte, ce n'est pas important, le contexte, vraiment. Ce qui est important, c'est d'utiliser n'importe quoi, à n'importe quelle sauce, pour pouvoir atteindre pour que son zèle impur puisse être manifesté. Donc, il dit, Paul, qu'il avait ce zèle-là. Il avait un zèle impur. Il dit, « Je persécutais à outrance et je ravageais. » Je sais c'est quoi, Paul. Il dit, « Je sais c'est quoi de vouloir détruire une église. » Je suis en train de vous écrire à propos de ceux qui vous divisent, mais je le sais, je l'ai fait. Et quand on le fait, puis on s'en est repenti, on est capable de voir ça aussi de plus loin un peu. Donc, il dit, « Je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu. » Vous savez, la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle implique l'humilité. Car Dieu donne sa grâce aux humbles, puis il résiste aux orgueilleux. Et l'humilité implique nécessairement la reconnaissance d'un tort. J'étais off, mais j'ai reçu la grâce de Dieu. Et donc, la grâce demande la reconnaissance des torts. Et c'est exactement Paul, c'est ça qu'il fait ici. Puis Paul, il n'a pas honte de dire, en passant, si c'est les judaïseurs qui vous ont dit que je la détruisais l'Église, c'est vrai en crime. C'est vrai que je la détruisais. Tu sais. Mais, la grâce de Dieu, elle vient. Hein? Et donc, Paul n'est pas fier ici, mais il veut montrer que par les mérites, on n'a pas accès à cette grâce-là. Paul, il peinture le plus noir de sa vie, la période la plus noire de sa vie. Il a peinture, il fait une peinture avec ça. Pour montrer que lui qui est l'apôtre de la grâce, il ne peut pas se qualifier pour cette grâce-là. Puis en fait, si l'homme n'a pas la grâce, il n'a plus rien. Paul, il veut montrer que par nos mérites, on n'a pas accès à la grâce, puis qu'à moins que Dieu vienne par sa faveur. C'est quoi ça veut dire déjà? On a dit cette définition-là de la grâce. Petite phrase courte. Faveur non méritée ou faveur non payée de retour. Exactement, une faveur non méritée. À moins que ce soit de la faveur de Dieu, personne, on aurait accès à Dieu. Si Dieu comptait nos fautes, qui vivrait? Et donc, Paul, il veut nous montrer que par nos mérites, on n'a pas accès à cette grâce-là, puis la grâce de Dieu n'est pas empêchée par le démérite. Fait qu'il y a pas, c'est pas un gars qui dit, hey, je veux plaire aux autres, hey, je veux pas être jamais pris en faute, je veux jamais être pris en faute. C'est pas ça. Paul, quand il dit « je ne suis pas là pour plaire aux hommes », ce n'est pas une question de ne pas être vu en faute. Il veut montrer que la grâce, elle peut être donnée même à celui qui la mérite la moins. Et ça c'est beau. C'est beau. Là, on s'en vient vraiment dans un beau passage. Il dit, dans le fond, que la grâce de Dieu n'est pas empêchée par aucun des mérites. Il veut aussi montrer que quand on veut plaire aux hommes, on peut être dévastateur parce qu'on veut plaire. Comme Paul, lui, il plaisait à certains, mais il ne plaisait pas à d'autres. Je veux dire, Paul, il ne plaisait pas en tout à l'Église. Là. Je veux dire, quand il respirait le meurtre contre l'Église, un autre passage dit, donc, ce n'est pas vrai qu'il plaisait à tous. Mais quand on veut plaire à un groupe, quand on veut plaire, quand on a un zèle qui n'est pas rempli d'intelligence et de connaissances, on peut faire du tort. À être dévastateur. Et il dit au verset 14, « J'avais un zèle excessif pour… » Il dit, « Gars, j'étais avancé, je l'ai lu tantôt, là, il dit, « J'étais animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes ancêtres. » Et donc, ça peut devenir dévastateur. Okay? Il dit, « Je détruisais l'Église de Dieu. » Et ça ici, soyez avec moi, le mot ici, c'est Ecclesia tu Theo, et ça veut dire le groupe de gens convoqué par Dieu ou de Dieu, convoqué de Dieu. Hein? La sainte convocation, pour dire, la convocation de Dieu. Mais mettez-vous dans la tête, là, on recule, on est au premier siècle, c'est qui l'Assemblée de Dieu pour le Juif? Là? Un Juif, là, c'est qui le peuple de Dieu? C'est les Juifs. Ce qui était quelque chose pour un Juif, c'était de faire partie du peuple juif. Ce qui était quelque chose, c'est de te faire circoncire pour que tu fasses partie du peuple de Dieu. Et Paul dit, je ravageais, et là, il va dire, l'Assemblée de Dieu. Et en faisant ça, il est en train de faire deux affaires. Il dit, je faisais du dommage, mais c'était vraiment la congrégation du Seigneur. C'était sa congrégation. Et donc, pour les judaïseurs, le peuple de Dieu, c'était Israël. Mais le peuple que Dieu a voulu rassembler, bien, il dit, combien de fois est-ce que je n'ai pas voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais vous n'avez pas voulu de moi. Et Jésus va le dire comme ça, puis il va pleurer sur Jérusalem. Et le même peuple convoqué par Dieu pour être son peuple, le peuple d'Israël, est devenu le peuple qui a crucifié le Messie. Et donc, au lieu de se rassembler avec lui, ils se sont rassemblés contre lui. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait à partir de Matthieu 13? Il prend une décision. « Je bâtirai mon Église » dans Matthieu 16, au verset 18. Jésus va faire la première énoncée. « Je bâtis mon Église. » Et donc, Dieu se détourne d'Israël, qui est un peuple contre lui, mais toujours quand même un peuple selon lequel il a des promesses envers eux qu'il va finir par respecter. Dieu s'est tourné d'Israël et a formé un nouveau peuple qui est l'Église composée à la fois de Juifs et de non-Juifs, mais de ceux qui, de ce bord-là, croient qu'ils peuvent faire partie de la nouvelle maison que Dieu s'est bâtie, qui est l'Église de Dieu. Mais il faut qu'on comprenne ici que les judaïseurs, ils disent, ce qui est quelque chose, c'est d'être un Juif. Et Paul dit dans le cinquième chapitre, il va dire, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Il est vraiment en train de pas, il est en train de vraiment dire, hey, ce qui est quelque chose, c'est que Dieu s'est fait une nouvelle famille, un nouveau peuple. Si tu es juif, pas de problème, tu peux l'avoir. Si tu es non-juif, pas de problème, tu peux l'avoir. Puis ça s'appelle l'Église. Les judaïseurs disaient, si tu es non-juif, tu peux pas l'avoir, à moins que tu deviennes juif. Et donc, c'est un enseignement qui est là. Alors là, il parle de sa conversion, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé, par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Ce passage-là, il dit, mais, je persécutais, je ravageais, mais, très important ce mais-là, Dieu avait décidé de l'appeler dès le sein de sa mère. La question c'est, qui d'autre? Qui d'autres sont appelés dès leur sein maternel? Qui d'autres sont appelés à lui appartenir? Qui d'autres sont appelés, une fois qu'ils lui ont appartenu, à le servir? Qui? Tous les hommes. Mais Paul, il raconte son histoire à lui. Il raconte son histoire à lui. Nous, on a chacun notre histoire à nous. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu appelle tous les hommes à lui. Et dans ce passage-là, comme tout croyant, qui est appelé, lui, il a répondu à l'appel de la grâce. Il dit, je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc, il n'a pas résisté. Hein? Il a entendu l'appel quand il était plus vieux, sur le chemin de Damas. Et l'appel avait deux choses pour but. Premièrement, appelé par sa grâce, un, de révéler en moi son Fils, premièrement, et deux, de l'annoncer parmi les païens. Paul avait deux appels. Chacun d'entre nous, c'est la même chose, mais Paul avait d'abord de lui appartenir, de révéler en lui son Fils, et deux, de révéler son Fils aux nations. Il y a deux choses qu'il a ici. Et donc, il va dire aussi à Agrippa, quand il raconte comment il s'est converti au Seigneur, tout ça, il va dire qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Et donc, il y a un appel ici qui est fait depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. Hein? Et il ne la résiste pas, cet appel-là. Il a fait le choix de ne pas la résister. Jean-Baptiste aussi, depuis le ventre de sa mère, il était choisi pour être le précurseur du Messie. Paul, lui, est un contemporain du Seigneur Jésus, puis il était appelé à l'annoncer parmi les païens. Il y avait Dieu dit, je veux faire quelque chose avec ce gars-là. Je veux qu'il annonce mon évangile. Mais là, c'est la grâce qui a fait tout ça, parce que Paul, il s'en allait, il respirait le meurtre contre les chrétiens. Et pourtant, Dieu disait, « Ce gars-là, je l'appelle par ma grâce. » C'est par sa grâce qu'il nous appelle. Paul a reçu le Saint-Esprit quand il s'en allait persécuter des chrétiens à Damas. C'est quoi si ce n'est pas la grâce? Je veux dire, le gars, il respire le meurtre. Puis Dieu dit, « Suffit. » Il lui apparaît de façon extraordinaire et il lui donne une faveur non payée de retour, celle d'être le proclamateur de l'Évangile. Il s'en allait pour massacrer, pour persécuter, puis quelques semaines après, il est là puis il prêche. Puis il reconstruit la foi qu'il tentait de détruire par la grâce que Paul a reçu cet appel-là. Paul a commencé à prêcher Jésus par grâce. Ce n'est pas parce qu'il était le meilleur des gens de sa nation, dans le sens où il n'a jamais fait de mal, il a toujours plu à Dieu. Non, c'est par grâce qu'il a commencé à prêcher Jésus. Ce n'est pas par ses mérites. C'est par grâce. Et chacun d'entre nous aussi, c'est par grâce qu'on est là. Il ne faut pas oublier ça. C'est à cause des mérites de Christ que Dieu nous donne le privilège de le suivre puis de le servir. Ensuite, dans 1 Corinthiens 15, il parle de quand que il est apparu. Il dit qu'il m'est apparu. Hein? Il a dit ça, il m'est apparu, blablabla. Il va dire dans 1 Corinthiens 15, 6, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il était pardonné, mais il ne sent encore point digne d'être apôtre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tout, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 6 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 6 à 10. Paul, il confesse qu'il a été appelé par la grâce de Dieu à être un enfant de Dieu, mais il s'appelle le bébé avorté. Il dit, moi, j'étais un avorton. J'étais un bébé qui n'aurait pas dû naître. Pas dû naître ou qui a failli pas naître, en tout cas. Il est un bébé, l'original parle d'une naissance anormale. C'est comme, il n'y a rien en moi. Si vous regardez en moi, puis je suis un apôtre, c'est pas à cause de moi. C'est à cause que moi, je persécutais à outrance l'Église, mais j'ai reçu la grâce de Dieu. Il ne voit rien en lui qui lui permet de naître de Dieu, et il ne voit rien en lui qui lui permet d'être apôtre même de Dieu. Si quelqu'un se disqualifiait, c'était bien lui. Et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait la grâce. Il dit, hey, Paul, vas-y mon gars, prêche. Tu voulais détruire les chrétiens? Reçois la grâce de Dieu, puis vas-y, prêche. Dis-leur qu'on est tous indignes, qu'on a tous besoin d'être pardonnés, puis que Dieu veut avoir une relation avec nous. Et Paul va se lever avec ce message-là, puis il va l'amener. Mais c'est par grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait de le servir. Alors qu'on est en train de glisser vers la conclusion, je ne suis pas dans la conclusion, on glisse vers là. Les Galates s'étaient tournés vers la grâce de Dieu l'année passée, puis cette année, ils s'en sont détournés. La grâce de Dieu avait fait quelque chose. Il y a quelque chose qui vient gagner ton cœur quand tu réalises que peu importe ce que tu as fait, que ce que tu as dit ou que tu n'as pas fait, la grâce de Dieu te qualifie aujourd'hui pour servir Dieu. Parce qu'il est riche en bonté puis en grâce. Puis c'est à cause de ses mérites qui permet qu'on puisse marcher devant Dieu. Il avait commencé à courir. Les Galates avaient commencé à courir. Ils étaient fiers de l'amour de Dieu pour eux et ils allaient. Et sûrement, ils partageaient l'Évangile. Mais là, ils ne courent plus. Ils se sont détournés de l'Évangile pour passer à un autre Évangile. Dans 1 Timothée 4.1, il nous est dit, l'Esprit, j'aurais pu mettre un grand œil ici, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À quoi ressemble une doctrine de démons? Réfléchissons un petit peu. Les gens vont marcher dans leur vie chrétienne, puis à un moment donné, ils vont abandonner la foi pour se tourner. Hein? Vous vous êtes détourné si vite de l'Évangile et de celui qui vous appelle. Passer à un autre évangile. Qu'est-ce qu'une doctrine de démon? À quoi ça ressemble? Une doctrine de démon, ça l'attaque ton caractère. Ça regarde comme il faut ta marche et ça t'attaque parce que tu n'as pas lu, parce que tu n'as pas fait le bien que tu aurais dû faire, parce que tu as fait le mal que tu n'aurais dû pas faire. Et ça t'attaque basé sur ton caractère. ça te parle sur ton indignité, ça te met ton indignité dans ta face et ça t'accuse jour et nuit dans Apocalypse 12, 10. Et le diable, il est l'accusateur des croyants et il les accuse jour et nuit devant Dieu. Dans Daniel aussi, c'est écrit, il use les saints du Très-Haut. Comment est-ce qu'ils font ça? Comment ils s'y prennent? Tu n'es pas un chrétien à la hauteur. Comment tu veux que Dieu se serve de toi? Il t'envoie des mensonges comme ça, puis tu finis par les gober. Vous détournez votre foi pour t'attacher à des esprits séducteurs qui viennent te dire d'autres choses que l'Évangile, qui viennent te parler de ton indignité sans la croix, qui viennent te parler de ton indignité sans la grâce de Dieu qui t'a été faite. Tu n'es pas assez ceci ou tu n'es pas assez cela. Et il nous fait tourner les yeux de celui qui nous appelle par sa grâce, à tourner les yeux sur nous et on ne regarde plus la grâce qui nous est faite. Tu sais, moi, je suis le premier à dire, mais il y a des gens qui vont se déplacer un matin pour venir écouter qu'est-ce que je vais enseigner. Tu sais, pauvres d'eux autres. Tu sais, puis je vous le dis, là, c'est ça que je dis le samedi. Puis je dis à ma femme, je ne comprends pas des fois, tu sais, se déplace. Puis Dieu est là, hey, n'oublie pas que tu es là par grâce. Hein? Vas-y, mon gars, tu es mon gars, tu es mon gars. Oui, mais s'il connaîtrait mes faiblesses, s'il connaîtrait ma fragilité, s'il connaîtrait qui je suis, viendrais-tu quand même? Tu sais? Ça, c'est le diable qui vient nous dire ça. C'est la grâce de Dieu. À quoi ressemble une doctrine de démon? Elle nous fait viser notre caractère au lieu de la grâce qui nous est faite. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne marche plus comme quelqu'un qui appartient à Dieu. Parce qu'on se voit en dehors de la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui sont décevantes dans notre cœur. Neil Anderson, on finit avec cette citation-là, « Dans une nouvelle identité pour une nouvelle vie », un livre que je recommande à tout le monde, la seule coquille qu'il y a dans cette doctrine-là, ici, que j'ai vue, en tout cas que j'ai lu au moins, je ne dirais pas le nombre de fois, mais l'usure du livre peut vous laisser voir que c'est un livre que j'ai enseigné plusieurs fois, puis je l'ai épluché. La seule coquille qu'il y a là-dedans, c'est que, M. Anderson il croit qu'on n'a plus de vieille nature pécheresse puis que c'est juste des vieilles habitudes du passé. T'sais. Donc, il est obligé de donner beaucoup de pouvoir au diable. Pourquoi un chrétien, il s'éloigne après? C'est juste ça. Par contre, c'est vraiment super. Je veux dire, il touche vraiment, je trouve qu'il touche vraiment au marbre. Là. J'ai appris beaucoup de lui. Alors, écoutez bien ça. Combien de chrétiens sont victimes de ces mensonges aujourd'hui? Des mensonges sur notre identité. Je ne peux que le deviner. Dans mon ministère, je les rencontre dans presque chaque relation d'aide. De nombreux chrétiens auxquels je parle entendent clairement des voix dans leur tête. Ils n'osent pas en parler de peur qu'on les prenne pour des psychopathes. Des chrétiens que je rencontre sont tourmentés par des pensées contradictoires qui ont une influence néfaste sur leur culte personnel. Rares sont ceux qui se rendent compte que ces tourments reflète la bataille qui a lieu dans leurs pensées. Même si Paul nous avertit cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. 1 Timothée 4:1. Puisque l'arme principale de Satan, c'est le mensonge, notre défense contre lui, c'est la vérité. Le combat contre Satan n'est pas une lutte pour la puissance, c'est une lutte pour la vérité. Quand nous dévoilons le mensonge de Satan par la vérité de Dieu, sa puissance est brisée. Voilà pourquoi Dieu a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera de vous des hommes libres. » Voilà pourquoi Jésus a prié, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver de l'esprit du malin. » Comment est-ce qu'on va être protégé dans la grâce de Dieu pour penser à nous dans la grâce de Dieu? Eh bien, Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est ta parole dans Jean 17, 15. Voilà pourquoi le premier élément de l'armure mentionné par Paul, c'est la ceinture de la vérité, Éphésiens 6, 14. Les mensonges de Satan ne tiennent pas devant la vérité, pas plus que les ténèbres de la nuit ne résistent devant la lumière du soleil levant. Ah, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis un apôtre. Ta-da! Et Paul, il dit, regarde, j'ai fait tout ça, je ne mérite pas d'être l'apôtre, mais il ne se glorifie pas de lui, il se glorifie par les mérites d'un autre, il peut être l'apôtre que Dieu l'appelle à être. C'est la même affaire pour toi. Quel est notre rôle dans ce combat? D'abord, nous devons être transformés par le renouvellement de nos pensées, dans Romains 12, 2. Comment pouvons-nous renouveler nos pensées? En les remplissant de la parole de Dieu pour pouvoir gagner la bataille pour nos pensées. Il faut que la paix de Christ habite et règne dans notre cœur, dans Colossiens 3,15, et que la parole de Christ habite avec vous dans sa richesse, dans Colossiens 3,16. C'est en continuant de stocker la vérité de Dieu dans nos pensées que nous serons équipés pour reconnaître les mensonges et pour les rendre prisonniers. Ha! Mensonges! Je ne suis pas ma faute, je ne suis pas mon échec, je ne suis pas assez ou je suis trop aussi. Je ne suis pas ça. Je suis qui je suis, par la grâce de Dieu. Mensonge, prison. Oui, prison. T'es une pensée libre. Tu ne devrais pas être en liberté, toi. Quand j'ai reconnu ces pensées-là, même hier, qui venaient, tu sais, pourquoi les gens vont venir écouter ce que moi, je vais enseigner. J'ai reconnu ça. Parce que ma femme, elle m'a dit aussi, des fois, je me regarde, puis je me dis, ah, tu sais. Puis là, elle parlait d'une de ses faiblesses. Ben, le malin, toi. Regarde donc, toi. On va l'exposer demain. On va prendre ces pensées-là et on va les faire captives. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je finis avec ceci. Là, je vais être en conclusion. Notre rôle dans ce combat-là, t'es où le premièrement? Deuxièmement. Pierre nous encourage, par la grâce que je suis là, Pierre nous encourage à préparer nos pensées pour l'action dans 1 Pierre 1,13. C'est qu'à un moment donné, on dit, oui, c'est beau, je suis qui je suis par la grâce de Dieu, mais Dieu nous appelle à l'obéir, puis tu sais, on a désobéi. On a reçu le pardon pour ça, mais on ne peut pas juste être là puis imaginer être en train d'obéir. Tu sais. On ne peut pas juste imaginer, hey, imagine, tu sais, qu'est-ce que ce serait ma vie là, tu sais, si je lisais la parole à chaque jour. Ah, imagine que ce serait ma vie si je me confierais en Dieu. Pierre, il dit, soyez pas juste des gens qui avaient des bons désirs. Mettez-vous à l'action. Hein? 1 Pierre 1,13. Parce que des rêves inutiles, c'est qu'on va s'imaginer qu'on fait des choses, mais on ne fait rien. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on finit par perdre notre contact avec les réalités. Et si on s'imagine être en train d'obéir à la vérité, on peut se motiver à vivre une vie productive. C'est parfait de dire, hey, sais-tu quoi, j'imagine. Qu'est-ce que serait ma vie, tu sais, si j'obéirais à Dieu? Puis là, tu dis, bien, OK, comment je peux le faire, ça, dans ma vie? Ah, bien, je vais faire ça. Là, tu commences à traduire ça en action, et là, vraiment, tu peux gagner ta victoire contre ton ennemi. Troisièmement, faisons toute pensée prisonnière pour les amener à l'obéissance de Christ. Réfléchissons tout de suite. Quand tu as une pensée qui vient et qui dit, ah, oh, je suis trop ci, ah, oh, je ne suis pas assez ça, ah, oh, moi, je ne suis pas comme elle, ah, oh, moi, je ne suis pas comme lui. Puis là, tu commences à te comparer. Dès que tu commences à voir ces pensées-là qui attaquent ton caractère, que tu puisses les reconnaître, puis dans 2 Corinthiens 10, 5, que tu puisses les amener ces pensées, tes pensées à obéir à Christ, hein, évaluer la pensée qui passe en fonction de la vérité que tu sais, puis de ne pas laisser de la place au mensonge dans ta vie. Et quatrièmement, tournons-nous vers Dieu quand notre engagement à accomplir son plan A est contesté et dirigé vers un plan B. Puis là, on commence à voir, justement, vivre une vie qui n'est pas celle de Dieu. Hein? Qu'on puisse apporter même ces pensées-là à Dieu en priant et en reconnaissant que Dieu est notre roi, son autorité. Amenons nos pensées à Dieu et disons, hey, Dieu, regarde mes motifs, regarde. Puis là, la double vie, elle va disparaître, là. Puis la paix de Dieu va venir surpasser tout ce que tu peux concevoir et garder ton cœur et tes pensées sous la protection de Jésus-Christ. Et je trouvais que c'était une belle façon de finir ce chapitre-là, parce que Paul, il a reconnu le mensonge. Il ne s'est pas juste imaginé qu'est-ce que ça serait de servir Dieu. Il dit, j'ai entendu l'appel, je l'ai obéi. Et c'est par la grâce qu'il est devenu qui il est. Amen. Donc, yes, merci. Merci. Seigneur Jésus, on a entendu le témoignage de l'apôtre Paul ce matin. Puis chacun d'entre nous, ben, on pourrait dire, ah, moi, je ne suis pas l'apôtre Paul, moi. Moi, je ne suis pas l'apôtre Paul, je ne suis pas appelé dès le ventre de ma mère, moi. Moi, je ne suis pas l'apôtre Paul, je ne suis pas un grand prédicateur. Je ne suis pas un pasteur ou un évangéliste. Ça ne me concerne pas. T'sais. Dans Éphésiens 2, au verset 10, c'est écrit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu te rappelles quand tu es venu à Jésus? Il fallait qu'il y ait de l'humilité, c'est-à-dire de reconnaître que tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu te dit que pour servir Dieu, l'obéir, marcher dans ses voies, ce n'est pas à cause de ta marche d'hier ni de la semaine passée que tu peux l'obéir aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Ben, il nous l'a dit dans un verset au début du message, au début de l'assemblée, il a dit que Dieu nous donne sa force, puis après ça, on marche dans des voies droites. Alors, c'est par sa grâce même que tu vas vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu vas vivre une vie qui plaît à Dieu. Et ça, si tu peux saisir ça, il y a beaucoup de mensonges, d'accusations de l'ennemi qui vont tomber. Puis si hier, tu ne l'as pas servi, si hier, tu as persécuté l'Église du Seigneur, si hier, tu as été animé d'un zèle qui a divisé même des frères, des familles, même si tu as fait du mal dans le passé. Mais la grâce de Dieu peut venir s'il y a un peu d'humilité, de reconnaissance du tort. Recevoir la grâce de Dieu, le pardon, mais aussi recevoir la faveur que Dieu te fait de le servir aujourd'hui. Tourne pas la grâce de Dieu en œuvre. Puis dis, ah, Dieu ne doit pas m'aimer à cause de ce que j'ai pensé cette semaine, de ce que j'ai fait cette semaine. Non, Dieu est toujours là, t'aimant tellement, toujours prêt à pardonner, te laver. Et c'est à toi de saisir cette grâce-là puis de dire, OK, parfait. Je marche en nouveauté de vie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui n'a rien à voir avec hier. Et Dieu, c'est par sa grâce qu'il me permet de marcher pour lui, de te servir. C'est par la grâce que tu as été sauvé, puis c'est par la grâce de Dieu que tu dois marcher aujourd'hui. Dieu veut te donner sa faveur, non méritée. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est la première fois que vous entendez peut-être un message de l'Évangile. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sans sa mort sur la croix et sa résurrection pour vous, c'est impossible d'être sauvé. Il n'y a aucun mérite humain qui nous permet de se sauver soi-même parce qu'on a tous péché. La mort de Jésus sur la croix sert de punition à votre place. Jésus a été puni afin que vous ne soyez pas punis et que vous puissiez recevoir la faveur non méritée de Dieu, son pardon puis la vie éternelle avec lui. Il vous prépare une place au ciel, il vous l'offre comme un don gratuit. Et faites comme Paul, je vous en supplie, faites comme Paul qui a dit, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté, je l'ai accepté. Puis je me suis levé. » Puis je vous en prie, ne faites pas comme beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils vont obéir à Dieu. Mais vivez de la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, obéissez aussi à la parole de Dieu. Et si c'est la première fois que vous entendez ce message-là, compte pour vous, c'est d'abord de faire la paix avec Dieu, en acceptant la mort de Jésus à votre place et en priant cette prière. Seigneur Jésus, vous pouvez le répéter, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que tu m'aimes tellement que tu es mort sur la croix pour être puni à ma place, que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, la Bible dit que Dieu fait de vous son temple et vient l'habiter. Commencez à lire la Bible. Joignez-vous à une église qui enseigne la parole de Dieu, qui enseigne la grâce de Dieu. Puis grandissez dans cette grâce-là parce que Dieu ne vous a pas juste donné la vie éternelle, il veut aussi révéler en vous son Fils au travers de vous. Il vous a appelé à des œuvres afin que vous les pratiquiez. Ne faites-le pas juste en imagination. Entrez dans ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. Yes. Alors, merci. C'était-tu la Sainte-Seine aujourd'hui?
message vous a fait du bien, vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.